On va enchaîner avec Christophe Pécaud, qui va nous parler, si de mémoire, de Berruyer Noir en Normandie.
Rebonjour à tout le monde. Donc moi, je vais vous parler des Berrues. Alors cette communication, je vais la faire pour la journée des Berrues qui a été évoquée, sauf que malheureusement pour moi, j'ai eu le Covid, donc je pouvais pas y aller. Voilà, l'idée, c'était ici, et dans le cadre de cette journée du mois de mars, c'était essayer de proposer justement une vision, on va dire, provinciale de ce qu'ont été les Berrues dans ce territoire normand, à travers l'analyse des 7 concerts qu'ils ont fait en Normandie, c'est-à-dire entre mars 85 et mai 88. Donc seulement 7 concerts, hein, on pourrait dire. Malgré la proximité, hein, Normandie et Paris, une proximité quand même assez proche. Mais si on regarde bien, les Berrues, c'est à peu près 200 concerts sur leur première carrière, donc c'est pas beaucoup. Donc on pourrait dire que la Normandie a plutôt été bien servie, hein, par rapport à d'autres régions. Mais comme le disait aussi François, hein, lors d'un entretien, on n'avait pas de région de prédilection, hein, ils allaient où ils pouvaient trouver des concerts. Et donc la Normandie, c'est aussi une terre qui n'est pas inconnue en termes de punk, hein, bien au contraire, puisque la Normandie, le punk, c'est aussi une vieille histoire que j'essaie de démontrer depuis le début de mon engagement d'Empine, hein, pour montrer que cette région avec ses spécificités est un territoire punk depuis au moins 1976. Hein. Et donc cette seconde vague punk, eh bien, elle va bien évidemment toucher aussi la Normandie, puisque comme on l'a dit, hein, les Berrues vont devenir le groupe de référence, hein, de toute une jeunesse, tant par leur originalité musicale, scénique, mais aussi à travers leurs textes et leur engagement. Et donc leur passage, hein, c'est ce que je vais essayer de démontrer, a suscité un certain nombre de ressentis qui sont toujours présents quelques années plus tard, hein, des décennies plus tard même. Et donc ici, l'idée, c'est d'étudier ces 7 concerts normands à partir de regards croisés, c'est-à-dire que j'essayais d'abord de m'interroger sur le regard des acteurs. Donc j'ai pu m'entretenir avec François, qui, on verrait que les souvenirs sont pas toujours là. Hein. Donc il y avait François d'un côté et il y avait le public. Donc j'essayais de retrouver un certain nombre de personnes qui étaient présentes à ces concerts. C'est difficile de trouver en Normandie, je parle, hein, d'anciens membres de ce public, hein, même si évidemment il faudrait que je pousse un peu plus loin. Bon, j'ai réussi quand même à trouver des personnes qui ont assisté à ces concerts. Ensuite, le deuxième regard croisé, c'est entre celui d'une presse locale, on va dire classique, et aussi les fanzines locaux. Comment ces fanzines-là ont traduit ce concert et comment la presse locale, hein, traditionnelle, va parler de ces différents concerts, de ces différents groupes. Et enfin, le troisième regard, c'est entre ce qui est dit sur le moment, donc à travers principalement la presse et les fanzines, et aussi ce qui est dit 35 ans après. C'est-à-dire que François, c'est 35 ans après, les personnes que j'ai interviewées qui ont assisté au concert, c'est 35 ans après, mais en même temps, certains ont écrit au même moment, en 1900, quand il y a eu le concert. Donc l'idée, c'est aussi de travailler sur la question mémorielle qui est au cœur aussi du projet PIN, hein, c'est-à-dire comment cette mémoire punk, elle se construit, comment elle est véhiculée, etc. Donc l'idée, c'est aussi d'un point de vue, on va dire, méthodologique, hein, c'est entre la confrontation, la mémoire et l'histoire, hein. Donc l'idée, c'était d'essayer de comprendre si les regards ont changé, ont évolué, ou quelquefois il n'y a même plus de souvenirs du tout, hein. Donc voilà. Et à travers ce corpus, hein, là je vous ai mis les affiches, les différentes affiches et les différents concerts, hein. Donc vous voyez, avec une représentativité, on va dire, régionale, puisqu'il y a autant la Manche, la Seine-Maritime, le Calvados, la Seine-Maritime, l'Eure, alors il manque peut-être, il manque l'Orne, hein. Ça veut dire que le groupe est passé dans tout le territoire normand. Et donc, à travers ce corpus d'entretiens, d'archives, de presse, d'archives, de fanzines, bah, j'ai pu faire ressortir deux thématiques qui sont revenues dans les discussions. Hein. La première, bah, ça va être la question de la prestation musicale et du caractère festif du concert qui ressort dans les entretiens et aussi dans les fanzines ou dans la presse. Et de l'autre côté, alors là, c'est peut-être pas forcément propre à la Normandie, c'est le côté plutôt embrouille, voire bagarre autour du concert. Enfin, tout ce qui peut se passer lorsque les BRU ont réalisé ou organisé ce concert. Le premier point, c'est cette question des ambiances festives. C'est-à-dire que, bah, comme le dit le fanzine des BRU en 88, hein, qui s'appelle le Mouvement de la Jeunesse, les BRU, c'est la rencontre d'Achille Zavata et des Sex Pistols. Donc ça veut dire que les BRU sur scène, enfin, pour ceux qui les ont vus, hein, c'est un spectacle qui va mêler l'énergie musicale du punk, qui va aussi mélanger le guignolesque avec les différents déguisements, voire le cirque avec les acrobaties, puisque les derniers concerts, il y aura un illusionniste, il y aura même des cracheurs de feu, il y aura des acrobates, etc. De la clownerie, bien évidemment, avec les masques. Et d'ailleurs, comme l'a dit LOL, que j'ai pu interviewer LOL pour un autre travail, il m'a dit, voilà, je lui posais la question de savoir ce qu'il faisait sur scène, il m'a dit, voilà, j'ai beaucoup grimpé au rideau, grimpé au plafond, sauté sur les enceintes, j'ai pas mal visité les lieux inexplorés. Donc ça veut dire que, voilà, il y avait aussi cet engagement corporel, hein, autour du spectacle. Donc c'est un mélange détonnant entre cette clownerie, ce cirque, et c'est assez détonnant aussi dans le milieu punk du moment, ce qui fait aussi leur originalité. Donc cette sensation d'avoir passé un moment intense et festif se retrouve, comme il est mis dans les comptes rendus, hein, de concerts, dans les fanzines locaux. Sur le concert de Cherbourg, hein, qui est le premier passage en Normandie, le 9 mars 1985, donc le fanzine Caca Burke, hein, qui est un fanzine qui n'est pas de la Manche, c'est un fanzine qui est de Seine-Maritime, plus précisément, vous ne connaissez peut-être pas, mais de Neuchâtel-en-Bray, enfin, vous connaissez le fromage, le Neuchâtel. Donc c'est deux jeunes de 17-18 ans qui créent ce fanzine et qui participent à ce concert à Cherbourg. Ce qu'ils disent, hein, c'est que en gros, c'est que voilà, dès le début, le spectacle est présent, le délire est complet. Donc même s'il n'y a pas beaucoup d'infos sur le nombre de personnes qui pouvaient assister au concert, parce que là c'est aussi difficile à savoir, est-ce que donc là on est en 85, hein, c'est le début, on va dire, d'une notoriété du groupe, puisque Macadam Massacre va, alors je sais pas la date précise ou le mois précis de la sortie de Macadam Massacre, mais qui va aussi donner une notoriété un peu plus importante pour le groupe. Donc après le fanzine va même interviewer le groupe après le concert, et voilà, François répond que ça a été un super gig, il y a des bons petits gars à Cherbourg, voilà. Donc ça veut dire que le public a priori a répondu présent physiquement à l'ambiance. Donc on retrouve aussi cette sensation lors d'un festival sur lequel je vais revenir, qui est le festival épique de Port-Bail, qui a lieu le 27-28 juillet 1985, donc qui va rassembler 13 groupes, dont La Souris et Les Damnes. Donc, et il faut savoir que Port-Bail, c'est une petite commune de 1500 habitants, rurale, hein, un petit port, et qui va voir arriver près de 2000 personnes, hein, pour assister à ce concert qui va être dantesque, hein, puisqu'il va y avoir une tempête qui fait que des groupes ne vont pas jouer, etc. En tout cas, le fanzine, hein, revient aussi sur ce concert en disant que voilà, toujours, hein, l'ambiance du tonnerre, un super son, un feu d'artifice, les masques, la boîte à rythme qui speedait, le public chantait. Voilà, donc ça veut dire que ce jeune là qui se souvient, hein, se souvient pas, sur le moment ressent cette sensation d'énergie d'énergie collective, on pourrait dire. Et François aussi, pour l'avoir interviewé sur ce concert, donc forcément 35 ans après, il s'en rappelle, parce qu'il y en a d'autres qui s'en rappellent pas, hein. Donc disait, voilà, que il avait bien, voilà, ils avaient bien aimé, c'était le bazar, mais c'était fun, voilà ce qu'il m'a dit, hein. Il n'y avait pas de loge, c'était un concert sympa, mais bon, ça a été fun et on s'est bien amusé. Vous allez voir qu'il a dit autre chose aussi après qui était moins fun. Donc, l'idée, c'est aussi de comprendre, s'intéressant au public. Donc là, forcément, c'est passé par un questionnaire que j'ai mis en ligne sur des réseaux sociaux, sur des sites qui sont destinés, on va dire, à des archives historiques autour du rock, à Caen, au Havre et à Rouen. J'ai demandé, voilà, s'il y avait un certain nombre de personnes qui avaient participé à ces concerts. Donc j'ai eu quelques réponses. Voilà, je vous en ai mis quelques-unes pour vous montrer que chez le public qui est présent, même voilà 35 ans après, hein, bah il y a toujours ce souvenir d'avoir passé un super moment festif, hein, Frédéric, voilà, ça bougeait dans tous les sens, il y avait la question des maquillages, ça toujours le côté clownesque, hein. Pour Ponche, c'était voilà super ambiance, le pogo avec les copains, voilà, donc il y avait cette ambiance aussi festive. Et Doris, donc là que j'ai interviewé, Doris que je dont je vais reparler plus tard, qui est une jeune punkette havraise à l'époque, elle qui voilà se souvient aussi de ce concert de Caen, hein, voilà où encore une fois on se souvient du pogo, on se souvient un peu de petits détails. Elle se souvient très bien qu'elle avait perdu une de ses chaussures pendant le pogo et qu'elle perdait son pantalon tellement elle avait sué. Donc il y a toujours ce caractère toujours festif, hein. En même temps, le concert avait lieu dans une boîte de nuit, donc avec OTH et les BRU. Par contre, il n'y a aucune trace dans la presse de ce concert, même dans les fanzines. Il n'y a pas du tout de trace, donc je ne sais pas, voilà. Ensuite, cette sensation, ce public qui prend du plaisir à assister au concert, on le retrouve dans un concert, et là je vous ai mis justement l'œil de la presse locale. Donc le 19 mars 1987, les BRU jouent à Lisieux, donc c'est la ville où j'habite. Hein. Lisieux, hein, c'est une petite ville de province du Calvados, hein, comme vous le savez c'est la ville de Sainte-Thérèse. Le groupe joue avec les Ludwig et les Endimanchés. Et donc, la presse lexovienne va écrire un certain nombre d'articles sur le concert. Alors, c'est pas le premier concert, il y a eu d'autres concerts auparavant. Il y a eu un premier concert où il y avait la souris déglinguée et les météores qui étaient venus. Et donc là, c'était un deuxième concert. Donc voilà, il y avait une volonté de développer aussi cette question des concerts rock. Et donc, la presse locale... comme vous le voyez, écrire sur le concert, alors plutôt de manière, on va dire, positive. Vous voyez, les voilà, les BRU, salut les Exoviens, avec des images, les fauves sont lâchés, ça pogote, il pleut, le spectacle s'arrose, le spectacle, la fête s'arrose, le spectacle partout. Donc il y a toujours la question du spectacle qui est au cœur de cette représentation des BRU. Hein. Sur un autre journal, alors je sais pas si je... Oui, il est là. Donc sur le Pays d'Auge, la salle était complètement en délire dès le premier morceau, dialogue entre spectateurs, le groupe, etc. Donc pour montrer qu'il y a eu une bonne ambiance, il y a eu quand même 700-800 personnes qui sont venues assister. Et un témoignage sérieux, c'est le mien puisque j'y étais. Et donc j'avais 16 ans et je suis allé à ce concert. C'était mon premier concert. Donc, égo histoire, mais ça va être rapide. Hein. Donc, j'ai pas beaucoup de souvenirs, franchement, de ce concert. Hein. Si, je voyais beaucoup de crêtes, beaucoup de monde, le son, etc. Le pogo, ça, je m'en rappelle. Mais après, du set des BRU, alors que, j'étais pas comme Laurent. Moi, j'ai plongé dans les BRU puisque j'étais au collège. Hein, j'ai des nadas après concerto, etc. Et voilà, je suis toujours un fan des BRU. Et donc voilà, je me souviens de mecs torse nu, la sueur, le service d'ordre, les mecs avec les bombers orange et tout ça. Bon, voilà, il y avait une notion, moi, de mes 16 ans, d'énergie brute, mais toujours dans une bonne ambiance. Enfin, je me souviens pas d'avoir vu des bastons ou des choses comme ça. Donc, il y avait toujours ce côté, on va dire, clownesque, hein, avec une ambiance plutôt bordélique qui reste dans les mémoires du public, même 35 ans après. Hein. Donc, voilà, il y a plutôt cette image très, très festive, très collective de ces concerts. Donc ça, c'est le premier point. Puisque le deuxième point qui ressort de ces entretiens et de ces lectures de fanzines, hein, c'est la question des tensions, des embrouilles, des bastons. Alors, bien évidemment, cette analyse, on va dire, normande, je pense qu'on peut la retrouver dans d'autres régions, et bien évidemment aussi sur Paris. En tout cas, ce qui fait que, voilà, une fois que la notoriété des BRU va aussi prendre de l'importance, hein, avec, comme je disais, Macadam Massac qui sort en 85, puis Joyeux Merdier en la suite, qui va donner une visibilité importante au groupe. Le fait qu'il y a peu de concerts en province des BRU, hein, je vous dis, c'est 200 concerts, donc il y a une attente aussi de leur passage, ce qui fait que souvent quand il y a un concert, quand je prenais le concert de Lisieux, il y a plusieurs régions qui arrivent, et donc il y a les punks de Paris, de la Bretagne, enfin les régions voisines, donc ce qui fait qu'il y a une attente forte, qui fait que il y a un rassemblement important sur un lieu géographique, et qui fait que les villes qui accueillent ce concert, eh bien il y a une peur, c'est-à-dire que les punks font peur, hein, ces punks, ils font peur parce qu'il y a tous les clichés. Évidemment, il faut voir des villes de province. Hein. Il y a tous les clichés autour, c'est-à-dire que l'alcool, la violence, les dégradations. Et plusieurs exemples montrent que les villes ou les villages qui vont accueillir ces concerts, hein, eh bien, il y a des espèces de rumeurs qui vont se véhiculer autour de la venue de ces hordes sauvages. Hein. Pour le Port-Bail, par exemple, pour le concert de Port-Bail, hein, lui, alors il n'y a pas que les BRU, il y a 13 groupes. Eh bien, j'ai pu rencontrer justement un jeune autochtone qui avait 18 ans et qui m'a dit que, je le cite, c'est l'ambiance psychose à Port-Bail avec les commerces qui ont fermé. C'est-à-dire que les commerces ont baissé le rideau tellement ils avaient peur que les punks arrivent, qui dégradent tout, etc. Donc il y avait une espèce de représentation très stéréotypée de ce public qui viendrait pour tout péter, etc. Donc il n'y a pas eu de problème, hein, y a pas eu de problème particulier. On retrouve ensuite la même peur à Lisieux. Alors Lisieux, il faut voir, une ville de province très religieuse, plutôt population vieillissante, plutôt droite traditionnelle, etc. Donc quand le concert est programmé, hein, il y a une peur de l'invasion, encore une fois, de la ville. C'est ce que disent un extrait là d'un journal local avec un ton un peu ironique, hein, vous voyez. On peut dire qu'ils ont bouleversé le tranquille paysage des vendredis après-midi des Lexoviens, les fans des BRU, oui. Ils ont pris d'assaut les cafés, les provisions. Bon, il n'y a pas eu, sauf le seul problème qu'il y a eu. Il y a eu 4 mecs qui étaient, beaucoup bourrés, qu'on fait les cons dans une poissonnerie, terminé. Voilà, il n'y a eu que ça. Alors qu'il y avait 800 ou voire plus de. Ce qui fait qu'à Lisieux, il y a aussi cette tension, ce qui fait que, des commerces ont fermé de peur de voir cette horde arriver. En plus, la gare est située dans le centre-ville, donc tous ces punks ont dû traverser la ville pour se rendre. Traverser et monter jusqu'à l'hippodrome, parce que la salle était à l'hippodrome, donc elles ont dû traverser. Donc, évidemment, il y a les bars, etc., les commerces pour les sandwichs. Mais il n'y a pas eu, autre que ces 4 mecs qui ont été enfermés juste le concert, il n'y a pas eu de problème particulier. Donc, même dans les journaux d'après le concert, il n'y a pas eu de. S'il y avait eu de la casse, évidemment que les journaux s'en seraient donné cœur joie de critiquer ce type de concert. Donc il y a cette peur qui est toujours présente, hein, dans ce qu'on ne connaît pas, hein. À côté de cette peur, il y a aussi des embrouilles. Donc là, c'est plus lié bien évidemment au groupe lui-même. C'est ce que François m'a dit lors du concert de Port-Bail, hein, même s'il m'a dit que c'était bien passé. Eh bien, le fait de voir cohabiter avec différents groupes, avec un public différent, fait qu'il y a eu quelques embrouilles, voire petites bastons, hein, c'est ce qu'il me dit. Quand ils sont arrivés, ils voulaient un peu s'imposer, il y a eu des clashs, il y a eu des petites, une petite bagarre avec, il y avait Elno, etc. Donc voilà, on n'agressait pas les gens, mais on était un peu en mode défense. Voilà un peu l'idée de voilà François. Après, il y a eu aussi ces questions entre le public présent, des skins, des punks ou des skins de province, des punks parisiens. Bon, il y a un côté un peu aussi régionaliste, etc., qui fait que bon, les tensions ont pu s'accroître. Et aussi, il y a eu une tension aussi entre groupes. C'est-à-dire, François m'a dit, c'était le cas avec, il y avait la Souris Déglinguée qui devait jouer après eux et qui se sont imposés pour jouer avant. Donc, il y a eu des tensions entre la Souris et les Bérus. Et ensuite, il y a eu une autre tension, c'est que quand les Bérus ont joué, il y a eu un décalage, et là, il y a le groupe anglais qui s'appelle Rubella Ballet qui a débranché la boîte à rythme. Donc, forcément, il y a eu une espèce de surtension sur scène et aussi dans le public. Le public a gueulé, etc. Et ce qui fait que le groupe Rubella, qui devait passer après, n'est pas passé parce qu'ils ont eu peur de la réaction du public. Donc voilà, il y a eu cette tension aussi autour de entre groupes, sur scène, avant scène, qui fait que après, je pense qu'il faudrait comparer avec d'autres endroits et d'autres groupes, mais les tensions entre la Souris et les Bérus, et François m'a dit que c'était pas quelque chose de nouveau qu'ils avaient trouvé dans d'autres concerts, dans d'autres lieux. Et donc cette tension va aussi découler, là vraiment sur des bagarres pendant le concert. Et ça, c'est le concert du Havre. Donc les Bérus vont jouer pareil un dimanche après-midi avec d'autres groupes au Havre. Et donc là, j'ai pu retrouver justement deux jeunes filles qui étaient présentes, Doris et Valérie, et là qui m'ont bien dit que voilà, ce concert, elles s'en rappellent très bien parce qu'il y a eu une baston et qu'il y avait des skins. C'est-à-dire, comme dit Doris, voilà, dès le début, on avait senti que ça allait craindre parce qu'il y avait beaucoup de skins. Alors skins havrais, etc. Valérie, pareil, ambiance de merde, des bousculades, voilà, donc plusieurs arrêts du concert, etc. Et même François, lui, quand il arrive, elle dit que voilà, les skins sont déjà là, on s'est dit, ça va être problématique, ils nous toisent, on se démonte pas. Donc il y a une tension qui est palpable, qui fait que le concert va se dérouler d'une manière assez tendue. Et là, je vous montre des photos que m'a confié Valérie, donc ça c'est les photos du concert, où on voit pas encore les moments de tension, mais c'est au moment, et là tout le monde se souvient, c'est ce qui est quand même intéressant, c'est quand les Bérus vont jouer Porcherie, mais évidemment avec la jeunesse emmerde le Front National, donc là ça va déclencher les hostilités, et comme le dit Doris, les mecs qui pogotaient, et puis quand ils ont chanté Porcherie, avec les crochets, les skins ont attaqué la scène, etc. François se souvient aussi que sur scène, il était avec les crochets et que ça lui servait aussi comme moyen de se défendre si jamais il était attaqué. Donc, et aussi, on va le retrouver dans le fanzine Aliénation, qui est un fanzine du Havre, qui va faire un long article voyez, sur le concert. Et celle qui a créé le fanzine, c'est Valérie, que j'ai interviewé, qui va aussi interviewer le groupe après le concert et qui relate de manière assez objective tout ce qui s'est passé, cette tension, l'arrivée des skins. Et je vous mets la photo de François, vous voyez, avec les crochets. Donc c'est à ce moment-là que ça a commencé à chauffer. Et donc il avait les crochets et il était prêt à en mettre un coup s'il y avait un problème. Donc Quand on regarde un petit peu ses souvenirs, un moment très marquant dans ce concert qui a priori n'a pas été le meilleur des concerts non plus, parce que bon, ça s'est arrêté, etc. Cette tension avec les skins, pour certaines comme Doris, elle a quitté la scène parce qu'elle avait trop peur, elle avait 16 ou 17 ans, donc elle a eu peur, elle est partie. Valérie, elle est restée et en plus ensuite elle a été interviewée le groupe pour le fanzine Annihilation, et bien évidemment que François va revenir un petit peu sur ce concert en disant que il engueule un peu l'organisation en disant que c'est inadmissible de laisser passer des gens, etc., et que fallait leur dire de dégager ou d'enlever un certain nombre de signes de signes d'extrême droite, etc. Donc voilà, ce qui fait que ce concert est dans l'imaginaire de ce public là est resté, et on souvent, pour avoir discuté avec d'autres personnes du Havre, me disent que oui, je me souviens du concert du Havre, je suis pas allé parce qu'il devait y avoir des skins de Paris, il devait y avoir des skins du Havre, il devait y avoir 150 skins, sauf qu'au final, il y en a eu une vingtaine, et c'est eux qui ont foutu le bordel, mais après, le concert a eu lieu. Donc vous voyez, il y a aussi ces rumeurs et ces fantasmes autour de cette question... Cette question de la présence des Bérus, hein, qui aussi ravive les tensions entre les skins extrême droite, etc. Et donc le dernier concert, hein, il a lieu au Festival Rock dans tous ses états, qui était le festival de Évreux, qui a disparu en mai 1988. Mais là, j'ai peu d'infos sur cette question-là. Donc, ce qu'on peut dire pour terminer, c'est que le passage des Bérus, hein, comme vous l'avez bien compris, il a laissé un certain nombre de traces fortes, hein, dans la mémoire de ce public. Et moi-même, hein, je me souviens très bien. Je me souviens du concert. Je me souviens pas de tout le concert, mais je me souviens très bien de cette ambiance, de ce public, hein, très festif, hein. Et donc, l'idée, je trouve, sur ce premier travail, hein, ça serait peut-être aussi de comparer avec d'autres villes de province. Est-ce que on peut retrouver ces traces ou ces moments festifs ou plutôt d'ambiance un peu tendue? Est-ce que sur Paris, c'était comme ça? Voilà, il y a aussi le côté province, le côté parisien, peut-être à voir. Et aussi, je trouve que la question aussi des traces mémorielles, hein, de ce que peut avoir l'impact d'un concert, hein, c'était une idée qu'on avait envisagée, comment un concert peut changer, enfin peut-être pas une vie, mais être un concert parmi d'autres, être celui qui laisse le plus de traces dans la mémoire des gens. Voilà, merci.
Merci Christophe pour cette superbe communication sur la réception de Béreur et Noir en Normandie. Bon, je suppose qu'il y aura des questions. Moi, j'ai dans une remarque, dans le premier document, enfin un des premiers que tu as montré, il y a François qui dit, et là on revient sur la question des normes, il dit ouais, la salle n'était pas adaptée, elle était trop grande. Je ne sais pas si tu as lu, c'est rigolo parce que du coup ça questionne tout de suite le rapport du punk aussi au lieu, aux espaces et à la capacité des groupes à faire justement ce lien avec le lieu dans lequel ils sont. Voilà, c'était juste une remarque, ça m'a frappé parce que puisqu'on est sur les normes, tu vois, c'était trop grand, c'est pas adapté au punk et tout.
Mais après, sur le. Par exemple, si la salle trop grande, c'est ou le concert de Lisieux, c'est une salle qui n'était pas du tout adaptée à comment. C'est l'organisation, Warhead qui avait trouvé une salle qui était capable de rassembler 1000 personnes dans un lieu qui est un peu centre Lisieux, qui est Paris, etc. Mais la salle n'était pas du tout adaptée. Hein.
Ça, non, mais c'est marrant de prendre la question du rapport aux normes, justement, par ce rapport à, est-ce que c'est adapté ou pas pour le punk? Et finalement, ça pose cette question. Jean-Emmanuel.
J'avais juste deux petites questions. C'était, la première, c'est sur la ville de Rouen. Bizarrement, je sais pas, parce que je suis de Rouen. Voilà, et en 86, 85, j'avais 15, 16 ans. Et j'ai pas souvenir de concert bizarrement à Rouen, alors que c'était quand même une ville assez rock. Et je sais pas pourquoi ils sont pas passés. Parce qu'ils sont passés partout ailleurs, mais pas à Rouen. Donc je n'ai pas d'explication à ce.
Je réponds là. Oui, ils sont pas passés à Rouen. Après, pour en avoir parlé avec François, en gros, c'était les associations locales qui démarchaient le groupe pour venir. Donc, il n'y avait pas de démarchage de leur part d'aller dans tel lieu. Donc, ils se sont retrouvés à jouer Cherbourg en Normandie parce qu'il y avait des assos qui étaient actives, qui voulaient les faire venir. En Normandie, il y avait l'association, enfin, pas Normande, mais Warhead, qui a quand même organisé un certain nombre de concerts, pas que les Bérus, mais d'autres. Et donc, après, sur ces gros concerts comme Lisieux ou Port-Bail, c'était une asso cherbourgeoise à Port-Bail qui a voulu organiser ce concert dans un lieu qui était capable de rassembler. Donc, s'il n'y avait pas d'asso à Rouen pour accueillir, enfin, pour organiser le concert, c'était surtout comme ça. Il n'y avait pas une envie de programmer dans telle ville. C'est vrai que c'est la seule, paradoxalement, la ville que peut-être... Le rock, donc pourquoi, je sais pas, parce qu'il y avait quand même des salles, il y avait Studio 44, qui est devenu l'Exo 7, il y avait d'autres salles, alors parce qu'il y avait peut-être pas l'assaut local pour faire venir le groupe.
De volonté.
Oui.
Des gens locaux. Et alors, le deuxième petit truc, c'était que là, c'était souvenir personnel à l'époque. Moi, j'étais à Rouen, vers, voilà, et on parlait des skins, et c'est vrai qu'ils n'étaient pas si nombreux que ça, mais ils étaient quand même assez terrorisants en Normandie. Et bon, le Havre, après, on entend malheureusement entendu parler dans les faits divers, mais je me rappelle qu'à Rouen, c'était quand même. Ça pourrissait un peu la vie quotidienne, en gros, parce que si on avait tout ce qui était entre guillemets looké se faisait taper dessus. Et c'était pas non plus un nombre, je pense, incroyable, mais qui était quand même. Je pense que dans l'époque, c'était un peu le père Fouettard, ou je sais pas comment, mais le truc qui traînait, qui pourrissait un peu la vie qu'on sortait le soir. On savait qu'il pouvait toujours y avoir un risque. Ça, je me rappelle que ça a duré jusqu'au début des années 90, et puis après, c'est vers la moitié des années 90, ça a disparu.
Bah, au Havre, ouais, il y avait une implantation. Après, à Rouen, je ne connais pas, mais j'étais trop jeune, hein, à ce moment-là. Fin. Et ce qu'on m'a raconté, voilà, c'était qu'il y avait peu, au final, mais ça faisait fantasmer tout le monde. Quoi. C'est-à-dire que, lors des concerts, tous les skins de France devaient arriver, pratiquement. Mais au final, il y avait. Voilà, il y a des gens qui, pour le concert du Havre, ne sont pas venus parce qu'ils ont entendu dire que. Il allait avoir les skins qui allaient arriver, mais au final, ils étaient une quinzaine, hein, pareil. Alors, ils ont foutu le bordel parce que, voilà, ça suffit. Mais sinon, ça fantasmait aussi beaucoup sur le fait que tout le monde allait descendre pour, justement, péter la gueule au BRU parce qu'ils étaient, voilà, ils représentaient. Et ça revient, pour avoir d'autres concerts, hein, mais ça revient aussi souvent le fait qu'ils étaient peut-être peu nombreux. Mais qui faisait.
Vous avez un pouvoir de nuisance.
voilà, je sais pas, j'ai pas connu assez ce moment-là.
Alors, moi, j'ai une question. De par ton expérience, pourquoi les skins fachos extrême droite viennent au concert des punks pour casser du punk gauchiste libertaire? C'est quoi le truc? Ils veulent juste de la baston? Ils viennent aussi pour la musique? On sait qu'il y a l'exemple en Angleterre de Sham 69 qui. Drainer tous les fachos du coin, ils n'en pouvaient plus. Je pense qu'à un moment donné, ils ont arrêté de jouer parce que les mecs venaient quand même aussi, je pense, pour la musique. Mais selon tes souvenirs en France, les skins, la raison, c'est quoi? C'est vraiment bastonner leur antithèse. Enfin, je sais pas, comment tu vois ça, toi?
Alors, je suis pas spécialiste du mouvement skin, hein, mais. Sur ce que m'ont dit les François, par exemple, c'était déjà. Ouais, peut-être pas tout le temps se bastonner, mais au moins montrer que ce que disaient les BRU, enfin leur discours, hein, qui était quand même voilà antiraciste, anti etc. Leur montrer qu'il y avait voilà, on a envie de physiquement se confronter à eux, leur pourquoi pas de leur péter la gueule, hein, parce que il y avait ça aussi. Hein. Donc il y avait cette idée-là aussi, donc d'aller à un concert où le groupe phare est plutôt un discours complètement différent du leur et de montrer que voilà c'est un peu la virilité voilà affichée, hein. Après ça faisait peur vraiment, enfin ça faisait peur. Après je suis pas le spécialiste du mouvement, donc je prendrai pas de voilà de moi ce qu'il m'a dit c'était ça. Après dans d'autres cas, dans d'autres lieux, peut-être qu'il y avait un attrait pour la musique, ça je sais pas, je serais incapable de vous le dire, voilà. Mais en tout cas là, sur ces concerts là c'était vraiment de s'affronter physiquement et de montrer un peu, parce qu'il y a aussi, il y avait le côté contestataire en termes idéologiques, mais il y avait aussi le côté territoire, les skins du Havre et les groupes parisiens. Donc il y avait aussi un petit peu ce côté, puis le Havre c'est ville prolétaire, ouvrière, portuaire, etc., avec une culture, une culture ouvrière forte. Donc est-ce qu'il y avait ça derrière aussi? Il faudrait leur demander, hein, mais peut-être qu'il y avait ça.
Pour ça, il y avait d'autonomes. Pure au camouflage et tout ça, et puis il y avait 50% de Redskin, donc.
Au Havre, non, il n'était pas encore. À Lisieux, oui. Au Havre, ils sont arrivés, ils sont débrouillés. Parce qu'au Havre, c'est 85, 86. Voilà, peut-être qu'entre temps, ils ont pris un. Parce qu'il y avait trop de problèmes. Et là, même Marsieu, dans une interview, on parle en disant qu'ils ont dû se démerder tout seuls. Donc c'est peut-être pour ça, à un moment donné, quand il y avait trop de problèmes, ils ont pris le service d'ordre. Justement, après, je les ai vus, quand je les ai vus à Lisieux, où il y avait le service d'ordre, les Redskins, qui filtraient à l'entrée, qui enlevaient les couteaux, les machins et tout ça. Donc là, il y a peut-être eu le passage, oui, les badges. Voilà, donc je sais pas quand exactement, faut regarder un peu, mais parce qu'à mon avis, c'était trop emmerdé, quoi. Donc à un moment, ils se sont dit, on va chercher un service d'ordre qu'on connaît et qui va être efficace. Et souvent, des mecs qui étaient arts martiaux et tout ça. Non, mais le côté sport aussi, hein, on le retrouve ici.
Mais pour revenir au skin, en fait, c'était un ersatz des skinheads d'Angleterre qui avait ça avait démarré au début. Et en fait, ça, tout ça, ça vient du punk aussi. Hein. Les skinheads, ça faisait partie du punk au départ. Et simplement qu'ils avaient des revendications ou ils pensaient que... Il y avait des choses qui ne les représentaient pas parce que c'était tous sortaient du mouvement populaire. Et donc, il y avait eu cette division à un moment donné entre le punk et les skinheads. Et ensuite, c'est venu copier en France, comme beaucoup de choses, surtout quand il s'avère qu'on parle du rock. Et bon, pour revenir à ce qu'il disait, moi, à l'époque, je suivais les Dogs. Donc de Rouen, donc ça a créé. On ne comprend pas non plus pourquoi Rouen s'est pas activement concentré sur la suite. Bon, parce que les Dogs, on peut les situer aussi en pré-punk, si vous voulez. En fait, donc voilà.
Après là, on parle d'une frange de skin. Hein, faut,
oui, oui.
Hein, c'est pas tout le mouvement. Hein, c'est, ouais, là, l'extrême droite, voilà. Après, voilà, pas, parce qu'il y avait bien évidemment, voilà, oui, c'est minoritaire par rapport au mouvement plutôt multiculturaliste, etc. Le ska, ouais. Machin. Hein. Non, non, pas du tout. Non, il y a une frange qui s'est, comme en Angleterre, hein, à un moment donné, avec National Front, etc.
Là, c'est.
Juste pour compléter ce que disait la discussion sur les assos, c'est vachement important pourquoi les Bérus sont venus jouer là. De mémoire, à Bordeaux, c'est pareil, c'est une petite asso qui les a fait venir, c'est les étudiants, en fait, c'est la GEB, l'Association Générale des étudiants de Bordeaux. Donc, tu vois, le tout premier concert qui est passé à peu près inaperçu à Bordeaux, hein, c'est dans une toute petite salle. Voilà, et donc, c'était pour compléter ta réponse sur le fait qu'il n'y a pas de tourneur à l'époque des Bérus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une correspondance avec des gens, c'est local.
C'est pour ça quand je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que vous avez joué partout en France ? Il me dit non, il y a des régions, par contre, on était beaucoup plus présents, dans le Nord, par exemple, ouais. Parce qu'il y avait justement des assos qui les demandaient, ou l'Est aussi, il m'a dit que l'Est, ils étaient beaucoup demandés. Par contre, il m'a dit le Sud, même la Normandie, qui est quand même plus proche, on me dit, on venait parce qu'il y avait une asso. Donc, ça veut dire qu'au niveau du territoire, il y a des régions qui étaient plus actives pour. Alors, il n'y avait pas que les Bérus, il y avait tout le courant rock alternatif, parce qu'ils faisaient souvent que les Ludwig, etc. Et donc, ça, comme tu dis, c'est dû à des assos qui viennent. Ouais, ouais. Puis il faut les payer un petit peu aussi.
Thomas Loué, il avait cartographié dans Volume, je ne sais pas si tu te souviens, le OTH qui est beaucoup plus au sud et Bérus au nord.
Oui, en gros. Et l'Est aussi, vous dites.
On va prendre peut-être une dernière question, une toute petite question. Il est midi 10, donc bon.
Oui, j'ai vu sur une coupure de presse, c'était écrit en 87, c'était écrit Délire fun des néo-punks. Et du coup, je voulais savoir si dans l'article c'est écrit quelque chose sur pourquoi le Bérus serait néo-punk plutôt que punk. Et est-ce que toi, tu avais déjà ça en tête, en voir du néo-punk ou juste aller voir du punk
c'est... Alors, je pense que le titre néo-punk, c'est vrai que le journaliste pense que le punk c'est 77, toi.
Ouais, mais c'est ça en fait.
Donc néo-punk, ça veut dire que les nouveaux punks, je pense que c'est dans cette idée-là. Après, moi en tant que fan, j'allais voir un concert punk, j'allais pas à un concert néo-punk. C'est vrai que le titre est, c'est une bonne question de voir comment on se représente un mouvement. Là, je ne sais pas qui était le journaliste, quel âge, parce que ça se trouve s'il a 55 ans à ce moment-là, il a connu peut-être, ou si c'est un jeune, mais qui... Bon, je ne sais pas, là, il faudra regarder. Hein. Mais le néo-punk, c'est... Après, est-ce qu'il faut le voir un peu dans une... Peut-être aussi une optique un peu plutôt critique, enfin, tu vois, c'est pas des vrais punks, enfin, tu vois. Est-ce qu'il y a ça? Après, quand on lit l'article, on est plutôt sur une présentation plutôt positive d'un public qui vient pour la musique, une musique qui est mise en avant, enfin, les textes des Bérus, c'est la fête, tout ça. Enfin, tu vois, c'est plutôt c'est moins le côté destroy et machin. Tu vois. Donc, néo-punk, oui. Je pense que c'est ça. C'est un puis, peu, c'est faut, pas des punks, tout à fait des punks.
Moi, dans le souvenir de l'époque, si tu veux, tous les groupes qui arrivaient à monter, comme ça, je pense à Caméra Silence à Bordeaux, c'était quand même une surprise de voir le punk ressurgir à travers tous ces groupes. Enfin, moi, c'est le souvenir que j'en ai. Hein. Je, par rapport à 77, 78, 79, où tout le monde pensait que, bon, ben voilà, il y avait quand même une pente douce, tu vois, vers la fin de quelque chose. Et tout d'un coup, ces groupes, Caméra Silence, ben, Beru et d'autres, hein, ben, apparaissaient. Comme voilà, non pas les nouveaux romantiques, mais les nouveaux punks en fait. Alors après, je sais pas si c'est plus ou moins ironique, mais il y a quand même de ça, quoi. C'est-à-dire que, évidemment, vu d'aujourd'hui, ça paraît logique, tu vois. On a toujours, on parle de génération, etc. Mais au moment où ça se passe, c'est pas du tout logique. Enfin, si tu veux, d'où le slogan "Punk's not dead", c'est-à-dire que les gens avaient besoin de dire que, à un moment donné, ben, voilà, ça revient, c'est une espèce de renaissance en fait.
Alors après, c'est vrai que pour les BRU, il y avait une originalité complète, hein. Ouais. Guitare, boîte à rythme, même s'il y avait déjà des boîtes à rythme, alors que 77, on est plutôt basse, batterie, classique. Donc il y avait.
Sauf métal urbain.
Oui, sauf métal urbain, oui. Mais c'est quelque chose aussi qui est nouveau. Donc c'est peut-être là le côté. Voilà, et le côté moins. Enfin, le côté vraiment très festif, hein, qui est mis en avant. Voilà, et en plus, oui, c'est ce que j'allais dire, c'est le terme, parce que punk, mais c'est BRU, Ludwig, tout ce courant-là, c'était rock alternatif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire derrière
Oui, mais qu'il y a une construction aussi.
Oui, qu'est-ce que c'est le rock alternatif? Parce qu'on mettait au TH, on mettait Parabellum, on mettait le porte-manteau, on mettait tout ce mouvement-là. Donc, est-ce que c'est du punk, du pop-punk, au TH ou pas? Enfin,
c'est le moment où le genre musical se renouvelle quand même aussi, même y compris dans les sons, hein, parce qu'on commençait même à avoir arrivé des instruments acoustiques. Enfin, il y a un petit peu de. Et comme tu dis, voilà, c'est la scène alternative avec un noyau dur. Bon, on peut réapplaudir. Christophe, merci pour cette superbe communication sur la réception de Béreurier Noir et tout ce que ça questionne en termes de normes et de valeurs.